Bonsoir. Bienvenue dans ce groupe de partage du lundi 24 octobre 2011. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les chers frères et sœurs qui par la suite écouteront cet enregistrement et qui sont d'ores et déjà avec nous, qui font partie de notre grand groupe. Voilà, c'est un groupe de partage autour des enseignements qui nous parlent de l'unité, qu'on appelle aussi non-duel. Et je suis heureux de l'introduire avec quelques phrases avant de céder le micro et la parole pour laisser se dérouler la soirée comme elle doit se dérouler, c'est-à-dire parfaitement. Et afin de me rappeler que ce n'est pas moi qui dirige, je vais citer des phrases que je cite souvent et qui m'aident à lâcher prise sur la volonté ou l'objectif d'aller quelque part avec ces groupes et de nous laisser guider à dire ou à faire ce qui est juste au moment où c'est là. Et ces phrases sont à la page 30 de Un cours en miracle, ces 5 phrases qui disent ceci. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, ça, c'est une forme de cutie de rappel pour mon ego qui parfois veut des choses. Et je me rappelle que quand j'arrête de vouloir, souvent il se passe des choses exceptionnelles. Je me laisse diriger et je laisse les choses se faire sans le désir d'interférer avec. Et je me sens guidé tout de suite, sans plus de préambule, à citer une phrase de Christophe Alain, qui a écrit un très très beau livre à propos d'expériences d'éveil. Donc 90 expériences d'éveil du troisième œil, enfin quelque chose comme ça. C'est peut-être pas le titre précis, mais je pourrais le donner. Il a été interviewé par Radio Ici et Maintenant et j'ai été très très marqué par l'esprit non-duel de tout ce qu'il dit. Lui, il a, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, il a aucun passé de spiritualité et il avait une mère qui allait à des cours de yoga. Vers 15 ans, 16 ans, elle l'a pris avec elle. Et le prof de yoga lui a simplement dit, si tu veux essayer, tu t'allonges et tu regardes un point fixe au plafond jusqu'à ce que qu'il se passe quelque chose, que l'esprit, que les pensées se calment ou qu'il se passe quelque chose de particulier. Alors il a fait ça, il a regardé un point fixe au plafond tous les jours pendant 4 heures et 6 mois d'affilée. Et il a commencé à vivre des expériences de nettoyage et de vision et de changement profond de perception. Il sentir une extension de son corps physique à 40 cm du corps. C'est-à-dire que il touchait un verre avant que sa main physique le touche. Ça butait. Comme si il pouvait aller dans ce qui est énergétique dans ce verre. Alors, tout ça pour parler de ces deux phrases qui parlent de l'ego, puisque c'est un sujet, pour moi c'est un de mes sujets favoris, l'ego, parce que c'est à travers lui que encore je perçois le monde, et plus je le connais et plus je peux me rappeler que ce n'est pas moi mais une version limitée de moi qui essaye de me dire que c'est moi. Alors, Il le définit entre autres avec deux phrases et il dit que pour l'ego, c'est impossible de regarder au-delà de sa propre structure. Le monde commence et finit en lui. Il ne voit rien qui puisse aller au-delà, d'où la croyance qu'il est au sommet de l'évolution. Je trouvais ça parfaitement clair. Je répète, pour l'ego, il est impossible de regarder au-delà de sa structure. Le monde commence et finit en lui. Il ne voit rien qui puisse aller au-delà, d'où la croyance qu'il est au sommet de l'évolution. Je trouve ça vraiment parlant. Deuxième phrase, l'ego valide sa propre logique. Ses règles sont la norme, le reste est illogique. Il considère donc être au sommet de l'intelligence. Je trouve ça magnifique encore une fois. Si je dis je suis intelligent, je le dis avec mon intelligence. Et quoi que soit mon intelligence, voilà, ça sera la seule référence pour moi. Et donc je peux me situer au sommet, mais quelle que soit mon expérience, en vérité. Donc c'est intéressant parce que ça parle de limite, ces deux phrases-là. Il ne peut pas regarder au-delà de la structure. Le monde commence et finit en lui, et rien ne peut aller au-delà. Donc, dans ces perceptions-là, je me promène dans un monde limité, et je pense que c'est le monde. Et limité par quoi ? Par mes perceptions, par ce que l'ego perçoit, la structure de l'ego. Si j'ai un jeu de croyances, ce jeu de croyances, c'est la norme, et que tout ce qui est en dehors de ce jeu de croyances, c'est illogique, et donc ça sort de ma norme à moi, et donc c'est pas vrai pour l'ego. C'est illogique et c'est moins intelligent entre guillemets que ce que je suis en tant qu'ego, puisque ça sort de ma norme à moi. Donc on est de plein pied dans le monde du relatif. Et Christophe Alain parle beaucoup de la nuance entre l'absolu, qui est la réalité, tout ce qui est, et le relatif, c'est-à-dire la version limitée de la réalité à laquelle nous croyons, et qui pour nous est la norme, et qui pour nous est représentée par notre perception. Et cette perception, comme dit aussi Betty, que j'aime beaucoup citer maintenant, j'ai oublié. Betty la grande joie, qui un jour a commencé à voir qu'en fait tout ce qu'elle voyait était filtré. Que je vois à travers mes filtres et les filtres, ce sont ce à quoi je crois. Et s'il y a quelque chose un jour qui bouleverse ses croyances, je peux changer complètement de perception. C'est intéressant aussi. Donc elle, à un moment, elle a vécu l'expérience un beau matin qu'elle ne sortait plus du sommeil. Elle ne pouvait plus ouvrir les yeux au réveil. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, elle a vécu un décollement de l'ego, de la personnalité. Elle a commencé à se voir de l'extérieur. Et puis, elle a commencé à se désidentifier de la personne. Elle a commencé à arrêter de croire qu'il arrive des choses à une personne. Elle a commencé à parler plus de l'absolu. Des choses arrivent, mais pas à quelqu'un. En parlant de la joie, elle dit « il y a l'expérience de la joie, mais pas « je suis joyeuse ». C'est pas à moi qu'arrivent les choses. Et elle dit « c'est pas non plus mon corps. C'est ce corps à qui des choses arrivent. C'est intéressant parce que ça me fait sortir des normes. Des normes, c'est énorme aussi, ouais. Et il me semble qu'avec des croyances, le mot important, c'est désidentification. depuis tout le temps, depuis toujours, je crois que l'ego, c'est moi, je crois que mon corps, c'est moi, je crois qu'il m'arrive des choses à moi, et bien sûr, toutes mes perceptions, mon éducation, mes conditionnements viennent renforcer ça, jusqu'au point où je pense que cette croyance est inébranlable, et vraie, hein, pour dire les choses comme elles sont. Et il y a de plus en plus d'expériences comme celle de Betty. D'ailleurs, j'ai passé une petite annonce pour ceux que ça intéresse, où il y a des enregistrements audio, une foison même d'enregistrements audio non duels, qui parlent de Betty, de Della, D-E-2-L-A, qui a vécu une expérience similaire à Betty, et puis plein d'autres. Merci à Eric Leroy, qui m'envoie régulièrement des choses sur la non-dualité. Et c'est des heures et des heures d'écoute pour se faire du bien ou pour se rappeler des choses vraies. Hein. Donc, voilà, c'est la toute dernière petite annonce au jour d'aujourd'hui, hein, sur Être Plus. Je vais aussi le mettre dans les enregistrements audio dès que j'aurai un petit moment pour l'avoir directement en écoute. Voilà, aujourd'hui, il me semble que c'est un groupe un peu inhabituel, un petit peu informel aussi. Pendant un moment, j'ai cru que je serais seul. Je me suis dit, est-ce que je vais le maintenir si je suis seul? Bon, il s'avère que je ne suis pas tout seul. Hein. Il y a quelques personnes autour de moi, mais j'ai cru à ça pendant un petit moment. Alors, ce soir, j'ai été guidé à choisir... le titre d'une leçon comme référence ou comme point de partage, hein, si c'est juste pour vous, qui est la leçon 187 de Un cours en miracle. Et elle dit cette chose qui me touche beaucoup. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Elle est courte et pour moi est très percutante. Elle dit beaucoup de choses pour moi, et je parle de mon à partir de mon expérience. Hein, c'est pour ça qu'elle me touche. Et j'ai aussi envie de citer la première phrase du premier paragraphe, qui renforce encore cette notion. Nul ne peut donner à moins d'avoir. Voilà. Et ça continue en disant, de fait, donner est la preuve d'avoir. Donc c'est très beau, hein, pour moi. Ça parle de plein de choses. Vraiment, en peu de mots, ça dit beaucoup de choses. La première, c'est je ne peux pas, même en tant qu'ego, donner 100 euros à quelqu'un s'ils sont pas dans mon porte-monnaie. Donc donner, c'est la preuve que j'ai. C'est important. Parce que quand je donne de l'amour, ça veut dire que je l'ai aussi. Et pour l'avoir, je le donne aussi. C'est une autre leçon, ça. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Je peux pas étendre l'amour à travers ces bénédictions si d'abord j'ai pas reconnu que je suis dedans, que je suis, que c'est ma source également. Ça me parle aussi beaucoup de le monde est un miroir de ce que je suis. Hein. Il n'y a pas moi et un autre, hein. Dans l'unité, évidemment, il y a Dieu est, et Dieu est, c'est le principe de base de tout enseignement non-duel, Dieu ou l'univers, ou moi j'aime bien dire l'existence, ou la vie, avec un grand V, celle qui ne finit jamais, celle qui ne commence jamais non plus, celle dans laquelle il n'y a jamais quelqu'un en face, puisque c'est un. Le un ne peut même pas se regarder lui-même, puisqu'il n'y a pas de distance pour se regarder. Donc, c'est pour ça que dans notre monde de dualité, nous avons, entre guillemets, inventé l'autre, mais en tant que miroir. Hein, en tant que miroir, c'est-à-dire que l'autre est un reflet de qui je suis. Pour certains, ça paraît bizarre, hein, cette phrase, et pour d'autres, ça peut refléter des expériences vécues. Hein, et entre autres, ma vision de l'autre, mon frère, ma sœur, reflète pour moi profondément comment je me vois moi-même. Et c'est pour ça que l'autre peut être assimilé à un miroir. En vérité, j'ai inventé l'autre. Alors, je reviens au filtre là, hein, même si ça paraît très très réel, ne sous-estimons pas la puissance de notre esprit qui veut inventer un monde imaginaire, une pièce de théâtre, mais qui a des moyens divins pour le faire. Hein. Et donc, bien sûr, l'illusion est très puissante parce que j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un en face. Mais un peu comme dans Matrix, je peux aussi choisir de faire fonctionner mon cerveau comme je crois qu'il doit fonctionner, pour voir les images que j'ai envie de voir, ou auxquelles je crois. Alors je crois en un monde divisé, hop, je génère les perceptions électriques, neurologiques, physiologiques qu'il me faut, comme dans Matrix, pour voir ce que j'ai envie de voir. Et c'est pour ça que le véritable changement, on dit souvent c'est un changement de vision. Hein, et je vois ce à quoi je crois, et j'ai pas besoin de changer ce que je vois, j'ai besoin de changer ce que je crois, pour voir la vérité, pour voir sortir du rêve, de l'illusion. Et Betty parle sans arrêt de ceux qui sont sortis du rêve. Il y en a de plus en plus, paraît-il, hein, qui font ça en ce moment. Donc je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Si je me juge moi-même, alors de cet endroit qui est en guerre envers moi-même, je vais, parce que c'est encombrant le jugement, c'est encombrant la culpabilité, tout ça j'en veux pas en vérité, donc je le projette sur d'autres et donc je juge les autres parce qu'en moi c'est la guerre. Et je veux pas de cette guerre, mais je me débarrasse pas de la guerre quand je juge quelqu'un. J'étends la guerre simplement. Hein, je fais que la guerre, je la projette, en plus d'être en moi, je la projette apparemment à l'extérieur. Et inversement, quand je me bénis moi-même, c'est-à-dire que quand finalement j'accepte de reconnaître qu'il n'y a rien d'autre que l'amour et l'amour est en moi et que je suis là dans cette expérience duelle pour rayonner l'amour, pour étendre cette bénédiction qu'il y a en moi au monde entier, et avec cette vision-là, le monde béni est guéri. Hein. Guéri dans le sens pardonné, qui veut dire dans un cours en miracle, je le vois avec une perception juste, c'est-à-dire que tel qu'il est et non pas tel que j'ai envie de le voir. Voilà, donc j'ai dit beaucoup de choses. Il me semble que parfois une seule phrase peut dire beaucoup plus qu'un grand chapitre. Pour moi, c'est une clé, c'est une clé d'arrêter de m'occuper de ce qu'il y a soi-disant à l'extérieur et de commencer à m'occuper de ce qu'il y a dedans en ce qui concerne ma vision, comment je me vois. Et comment je me juge, c'est comment je me vois. Hein. Comment je m'aime, c'est comment je me vois. Je peux dire que dans mon expérience de vie, le jour où, avec les conseils d'une thérapeute, j'ai arrêté de me juger, ou avec l'impulsion, je dirais peut-être, de cette thérapeute, puisque c'est quand même moi qui l'ai décidé, ce jour-là marque un tournant extraordinaire, fondamental dans ma vie. Fondamental. Le jour où j'ai commencé à m'aimer moi-même pour ce que je suis. Pour ce que je suis, c'est-à-dire avec cette phrase intérieure qui dit « Eh bien, je suis ce que je suis, c'est ok. » Dieu dit ça aussi, Dieu dit ok à tout ce qui est, c'est-à-dire il n'y a pas de chose meilleure qu'une autre, les choses se passent comme elles se passent, c'est ni bien ni mal, puisque tout est un. Dans le un, il ne peut pas y avoir de place pour ce qui est mauvais, puisque c'est un. Dans le un, c'est l'amour sans opposé. C'est-à-dire que c'est pas ce que nous connaissons, la haine en face de l'amour, ou la méchanceté en face de la gentillesse, c'est l'amour sans condition. Hein. Et c'est normal dans ces conditions que cette phrase « Dieu dit ok à tout » soit représentative de la réalité, c'est-à-dire de ce qui est tout le temps. Alors je peux bien sûr interpréter cette phrase ou avoir des perceptions erronées du monde qui me font dire que cette phrase n'est pas vraie. Hein. C'est ok, c'est pour ça qu'on s'assoit là, hein, et que toi qui es devant les haut-parleurs de ton ordinateur, tu écoutes avec nous. Béni sois-tu. Donc je me bénis quand je suis dans la détresse ou quand je suis dans l'amour, je me bénis. Hein. Quand je me bénis, j'ouvre la porte à me pardonner moi-même pour quoi que ce soit qui semble se passer. Et quand je suis dans la détresse, alors j'ai cru à des choses folles. J'ai cru qu'il pouvait m'arriver quelque chose. J'ai cru qu'à l'extérieur, le frère ou la sœur qui est en face pouvait me nuire, pouvait me tuer, pouvait me blesser physiquement, psychologiquement. Alors que dans l'amour sans condition de Dieu est, cet amour-là est inchangeable. Il y a aucune manière que cet amour puisse changer. Et c'est résumé dans l'introduction du cours qui tient en trois phrases. Hein. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Je trouve ces phrases de plus en plus puissantes au fur et à mesure que je sens leur interdépendance. Au début, je les entendais une par une, et maintenant je vois qu'elles sont reliées ensemble, ces trois. Parce que rien de réel ne peut être menacé. Si je dis que c'est vrai, hein, d'abord je dois croire que c'est vrai, hein, bien sûr, et ça c'est une question de croyance, de perception. Je peux dire que tout ce qui est menaçable n'est pas réel. Hein, tout ce qui est éphémère, que ça dure une seconde ou un milliard d'années, c'est pas réel, puisque rien de réel ne peut être menacé. Que l'amour ne peut pas être menacé, et donc l'amour est réel, hein, l'amour sans condition, l'amour de Dieu est. Et rien d'irréel n'existe, tout ce qui est éphémère n'existe pas en réalité. N'a pas de réalité à part dans mon esprit divisé qui présuppose que je crois en la division. Voilà, et si je rejoins ce qui est réel, c'est là que réside la paix de Dieu. Parce que dans cette réalité-là, tout est inchangeable. Le tout, l'un, est inchangeable. Il est éternel, invulnérable, inchangeable, parce qu'il est réel et non menaçable, comme dit cette phrase. Donc c'est des vraies méditations pour moi, ces trois phrases-là, parce que elles sont puissamment interreliées. Alors, je peux ne pas avoir la perception qu'il n'y a que l'amour qui existe. En effet, hein, je peux ne pas avoir cette perception. Moi, je peux dire humblement que je n'en ai pas non plus la perception, mais j'en ai l'intuition. Et l'intuition, j'ai appris à faire confiance à mon intuition. Parce que l'intuition, c'est pas ce qui passe par mon cerveau, c'est une forme de connaissance. Hein. On dit, il y a « je sais quelque chose », et ça passe par le cérébral et le mental, et il y a « j'ai la connaissance ». Mais la connaissance, avec un grand « C », c'est tout ce qui est de toute éternité, c'est la connaissance. Et donc, l'intuition, pour moi, c'est une connexion instantanée, qui n'est même pas dans le temps, à la connaissance, à toute la connaissance. Et parfois, j'ai des bribes, une connexion à cette connaissance sous la forme de pensées qui me viennent très rapidement, ou des réponses que j'ai immédiatement à des questions que je me pose. Souvent, ça vient quand j'arrête de chercher moi-même la solution, d'où celui qui m'a envoyé va me diriger. Hein. Je n'ai pas besoin de savoir quoi dire ou quoi faire. Donc, je peux laisser mon mental tranquille et faire confiance que la réponse est déjà là, dans la connaissance. J'imagine un instant que Il n'y a pas de temps, ce qui est vrai, puisque dans le monde réel, il n'y a pas de déroulement, il n'y a pas de temps linéaire. Si j'imagine ça, je peux très bien dire que problème et solution ne sont pas séparés par du temps, puisqu'il n'y a pas de temps. Et donc, si j'ai un problème, immédiatement, la solution est là. Si je me branche à la connaissance, comment ? En lâchant prise de vouloir trouver, c'est-à-dire chercher, ce qui existe déjà en moi, puisque je suis connecté au moyen de mon esprit pur, que le cours appelle le Saint-Esprit, mais qui est aussi ma partie intuitive, qui est connectée en permanence à ce qui est réel. C'est pour ça que nous demandons de l'aide et que nous pardonnons. Pour pardonner, nous demandons de l'aide, c'est-à-dire nous demandons à l'esprit juste, qui est connecté à la vérité, de nous guider, parce que dans cette vérité, il y a la solution est déjà là. J'ai pas besoin de la chercher. Plus je la cherche et plus je m'enferme dans la division de il n'y a pas de solution à mon problème. Où je suis bloqué. Où la solution n'existe pas encore. Il faut attendre, il faut faire des choses. Voilà, donc, même si je ne sais pas qu'il n'y a que l'amour qui existe, je peux, avec ces expériences, je dirais ces flashs de connaissances, parce que si j'avais la connaissance en permanence, il n'y aurait plus de réunion. Je serais aussi... j'aurai un esprit non divisé, mais aujourd'hui, quand je demande la vérité, d'une manière ou d'une autre, alors j'ai des flashs de vérité qui m'apportent. Ça peut être par une pensée, ça peut être par une action, ça peut être par un message publicitaire. En ce moment, merci Elisa, parce qu'en ce moment, je regarde les messages publicitaires, et merci l'esprit aussi qui met les messages publicitaires avec des messages à double lecture. Il y a quelque temps, je lisais une pub pour une voiture. La joie célèbre la beauté. Je trouvais ça magnifique. Mais ok, c'est pour BMW, mais on s'en fout. On s'en fout, puisqu'il y a une double lecture. C'est-à-dire, c'est quoi la double lecture ? C'est je suis à ce moment-là devant cette phrase et elle me touche. C'est ça la double lecture. Et l'esprit utilise cette pub pour la voiture. Alors récemment, moi, j'ai vu voir le monde autrement. Tu l'as vu ? Avoir une autre vision, enfin je me rappelle plus les termes précis. Oh, je dis magnifique, merci l'esprit. Parce que je peux le voir au niveau du monde séparé, et là je verrai une pub sur un morceau de papier, et puis je me dirai encore un publicitaire qui veut me vendre quelque chose. Et je peux le voir au niveau de la réalité, comme des messages subtils. Comme aujourd'hui, j'ai vu sur mon cadran 17h17 et 17 secondes au moment où j'ai regardé ma montre. Et je me dis, là, surtout que ça se multiplie en ce moment. Les 15h15 et les 12h12 et les 11h11. Donc je peux dire que c'est un hasard. Et si je crois à la raison et je crois que les choses arrivent par hasard, et je peux dire que c'est une synchronicité, si je crois à l'intuition, si je crois au message qui me relie à la vérité, et si je crois aux multiples rappels que je ne suis pas seul. Donc pour moi, c'est des rappels, le 17h17, c'est quand même assez parlant, et ça s'inscrit dans une suite de rappels similaires. Donc au bout d'un moment, mon ego décroche et dit... Je comprends plus. Bon, à toi de jouer. Moi, je lâche parce que j'ai pas d'explication rationnelle. Donc, c'est plus des hasards, c'est des choses qui arrivent de manière synchrone. Et la pub, c'est ça. La pub qui me dit, je vois le monde autrement. Alors, je sais pas pourquoi c'est pour une télé ou une fois j'ai vu entrer dans une autre dimension. Alors, quand je dis à l'intérieur, je suis disposé à voir autrement. Alors je peux lire les messages du monde autrement aussi. Je peux les voir avec mon esprit juste plutôt qu'avec mon esprit divisé. Et tout dans le monde est des rappels de comment j'ai choisi de voir.